J'allais dire bonjour.
Bonjour, il est désormais 8h02, voilà, hein, c'est toujours les promesses ça. De l'aube.
Deuxième partie de cette émission et nous accueillons ce matin Rabia pour Migrants Libres et Flo pour Getting the Voice Out. Bonjour.
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 Alors, ouais, comme ça, je vérifie si on vous entend bien. On va vous laisser vous présenter vous-même. Qui veut commencer? Allez-y.
J'y vais? Ok. Donc moi c'est Flo, comme tu viens de dire. Je fais partie du collectif Getting the Voice Out, qui est un collectif qui lutte contre l'existence des centres fermés, contre l'existence des frontières et pour la libre circulation et la liberté de circulation et d'installation. Concrètement, ce qu'on fait dans le collectif, c'est que on est en contact avec les personnes détenues à l'intérieur des centres et on fait sortir leurs témoignages. Simplement parce qu'en fait les centres fermés sont des prisons qui sont complètement invisibilisées, donc on connaît en fait peu ce qui se passe à l'intérieur. Donc l'idée c'est de pouvoir faire savoir à la fois la répression, les violences physiques et psychologiques qui se passent à l'intérieur, mais aussi les résistances, et donc être en soutien aussi aux luttes qui existent à l'intérieur de ces centres.
Merci.
Moi, c'est Rabia, je suis militant sans papier. Et je fais partie de Migrants Libres. C'est un groupe que j'ai créé en 2015 pour la régularisation. Ça, c'est la légitime revendication quand, autant que sans papier, on est en train de revendiquer. Et je participe aussi des fois avec Flo et les amis de Getting contre les centres fermés, contre les enfermements, les expulsions. Et voilà, ça, c'est mon, c'est ma présentation. Voilà.
Jeudi dernier, vous aviez fait une soirée de rencontres. Voilà, comment est-ce que ça s'est déroulé déjà?
Ça s'est bien déroulé. Il y avait des gens, on n'était pas seuls, donc c'est plutôt encourageant. On était plus ou moins une vingtaine. L'idée, c'était de pouvoir présenter le collectif, expliquer un petit peu ce qu'on fait, parce que c'est parfois un petit peu aussi abstrait. On a souvent la tête dans le guidon aussi, dans plein d'urgences. Et donc, du coup, on prend pas forcément toujours le temps de bien expliquer les choses. Donc là, on avait envie de le faire. On a été présents à différents festivals cet été. Donc, c'était aussi l'occasion de pouvoir recontacter les personnes avec qui on avait été en contact et qui s'étaient manifestées pour pouvoir rejoindre le collectif. L'idée, c'est que c'est à la fois de pouvoir proposer aux gens de rejoindre le collectif ou simplement aussi de pouvoir apporter un appui ponctuel, que ce soit au travers d'une traduction, du graphisme, un appel de temps en temps, simplement parce qu'en fait, prendre des appels, c'est une charge mentale et émotionnelle qui peut parfois être assez conséquente, que finalement, même si on a un noyau bien soudé dans le collectif, en fait, on n'est quand même pas beaucoup pour tout le taf qu'il y a à faire, parce qu'il faut savoir que, donc à Votem, il y a un collectif qui bosse spécifiquement donc à Votem, qui est le CRACP, qui sont aussi en contact avec des détenus. Et du coup, Getting, on est en contact avec des personnes qui sont à la fois au Caricol, au 127, mais aussi à Holzbeck, à Merckxplatz, à Bruges. Et en fait, ça fait beaucoup de taf. Et c'est vrai qu'on est souvent confronté à un sentiment d'impuissance, de ne pas pouvoir justement répondre à tous ces appels, de ne pas pouvoir apporter un soutien à toutes les personnes qui appellent le téléphone central. Et donc voilà, l'idée c'était vraiment de pouvoir donner de l'information pour espérer que les gens puissent nous rejoindre à un moment donné et contribuer à prendre en tout cas dans un premier temps tous ces appels.
Donc l'idée c'est quand même donc de faire sortir en fait la parole des personnes qui sont détenues en centre fermé. Et donc ces personnes, elles vous appellent parfois, c'est ce que tu es en train d'expliquer
ouais.
Là. Et ensuite, vous récoltez en fait les témoignages. Ça c'est une partie hein, de tout le taf. Et on les retrouve aussi très régulièrement sur le site internet de Getting the Voice Out. Et comment ça se déroule un peu tout ça?
Alors, dans un premier temps, l'idée c'est de pouvoir faire rentrer le numéro de téléphone à l'intérieur des centres. Du coup, là, comment ça se passe concrètement, c'est que un groupe de personnes va devant les centres fermés avec une banderole et un gueulot, où en fait on explique très brièvement qu'en fait s'ils ont besoin d'un soutien ou s'ils veulent témoigner de ce qui se passe à l'intérieur, qu'ils ont l'occasion d'appeler. On a en général pas beaucoup de temps. La police est là très vite. au-delà du numéro, en fait, on est en soutien aussi devant. En fait, je crois que ça fait du bien. Il faut savoir que par exemple le 127 et le Caricol sont dans des lieux très isolés. et très cynique aussi, parce qu'il y a, il faut savoir qu'il y a une piste de décollage en face où des gens viennent devant les centres fermés pour admirer les avions décoller. Bref, c'était pas le sujet, mais j'avais envie de le placer.
C'est un constat.
C'est un constat. Et donc, de là, les personnes appellent un téléphone central sur lequel on prend les premiers contacts, notamment où on prend les numéros de téléphone et certaines informations qui nous permettent d'amener vraiment un soutien, comme voilà, les numéros de dossier, la langue, s'il faut trouver des personnes qui parlent telle ou telle langue, comment communiquer. Et puis de ça, on se dispatche les appels. Donc on est plusieurs à prendre des appels et on rappelle ces personnes pour pouvoir soit simplement discuter. Il y a des personnes qui sont très seules et ça fait du bien en fait d'avoir quelqu'un derrière un téléphone qui est là pour causer, papoter. Soit aussi, et souvent c'est le cas, c'est résoudre des problèmes liés à des avocats. Soit les personnes n'ont pas d'avocat, soit les avocats en fait s'emparent pas du dossier et font pas du bon boulot. C'est aussi trouver des médecins, trouver des psys, trouver des gynécos, c'est vaste et c'est souvent un travail de titan en fait pour trouver par exemple un médecin qui rentre, qui accepte de rentrer en centre fermé.
Ah oui, j'allais c'est demander, parfois compliqué. Voilà, du coup il y a cette acceptation et on les laisse rentrer aussi quand une personne a besoin d'un médecin.
C'est déjà arrivé. Il y a des médecins à l'intérieur des centres, mais il faut savoir que ce sont des médecins qui travaillent pour les centres et que donc, on considère que toutes les personnes qui travaillent en centre fermé sont des personnes qui collaborent à ce système raciste. Non seulement les personnes à l'intérieur ne font pas confiance, mais c'est à juste titre, parce qu'il arrive que parfois des médecins disent à une personne, mais non, mais ça va, en fait, t'es en bonne santé, tu peux prendre l'avion. Et donc, il y a vraiment ce truc de, ils poussent, en fait, les personnes à être expulsés et donc ils feront tout, ils mettront tout en œuvre en tout cas pour que ça se passe quoi.
Parce que toutes ces personnes donc sont détenues en centre fermé en attendant du coup une expulsion.
Oui. En attendant une expulsion, parfois il arrive qu'il y ait des libérations dans les meilleurs des cas. Et aussi que les personnes résistent. Donc il faut savoir qu'une expulsion à la première tentative d'expulsion, on vous permet de refuser et donc de simplement signer un papier et de revenir au centre. Et ensuite, ça dépend, mais maintenant on voit qu'à la deuxième tentative d'expulsion, les escortes sont là. Donc les escortes, ce sont des policiers qui sont volontaires pour, je mets des gros guillemets, accompagner les personnes qui vont se faire expulser. Donc on entend par accompagner des violences en fait, des violences psychologiques, des insultes racistes, des violences physiques, et donc du coup qui vont aller avec la personne à l'intérieur de l'avion pour s'assurer que cette personne se tienne sage pour l'expulsion. Et du coup là ça me permet de faire un petit clin d'œil à l'anniversaire de la mort de Semira Adamou. Qui était la semaine passée, le 22 septembre, qui est morte il y a 23 ans, étouffée dans un coussin par des gendarmes qui voulaient la forcer à partir.
Et au niveau de ces expulsions avions, il y a aussi des appels à aller en fait à l'aéroport pour dénoncer en fait le fait que là une personne est en train de se faire expulser et qu'on peut en fait réagir, en tout cas les passagers peuvent réagir, et donc c'est aller un peu les sensibiliser et les inciter en fait à la réaction.
Mm-hmm. Le travail de Getting, il est pas c'est pas seulement de prendre des appels en fait, il y a plein de choses à faire au sein de Getting et ça fait partie des choses qu'on faisait. Je dis qu'on faisait parce que c'était plutôt quelque chose qu'on faisait avant le Covid. Ça a changé pas mal de choses liées à notre fonctionnement, le Covid. Du coup, l'idée, c'était pouvoir aller dans les aéroports pour effectivement alerter les personnes qui embarquent avec la personne expulsée, en leur disant, mais voilà, vous avez la possibilité d'intervenir, vous avez la possibilité d'éviter l'expulsion. Nous, on s'assure évidemment systématiquement que la personne qui est expulsée veut résister. On ne débarque pas comme ça en se disant que nous, en tant que personne du collectif, on est contre cette expulsion, on est contre les logiques qui y sont liées, et du coup, on ne va pas débarquer dans un aéroport simplement pour revendiquer nos idées politiques. C'est surtout du soutien, et donc c'est uniquement si la personne avec qui on est en contact nous dit, en fait, j'ai besoin d'aide, je veux résister, je veux pas partir, que là on prend l'initiative d'y aller, et du coup d'informer les passagers, de leur dire qu'en fait ils ont la possibilité notamment de demander par exemple à parler au commandant, de refuser de s'asseoir et de demander à parler au commandant pour que celui-ci décide de pas décoller avec la personne qui est en cours d'expulsion.
Et ça fonctionne ?
Ça dépend. Oui, ça a déjà fonctionné. Il y a des personnes qui se sont levées. Alors, il faut savoir que c'est pas sans risque. Il y a quelques années, je me souviens plus exactement des détails, mais en tout cas, je sais qu'il y a quelques années, il y a des personnes qui s'étaient levées dans un avion et qui avaient été inculpées de... C'était entrave méchante à la circulation, simplement pour s'être levée et pour avoir manifesté un désaccord avec ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire des violences à l'encontre d'une personne qui était... en train de se faire expulser. Et du coup, effectivement, c'est pas sans risque, mais en vrai, il y a
c'est
eu.
C'est pas un gros risque à côté de la personne qui est en train de se faire expulser.
C'est aussi, c'est un privilège aussi de prendre l'avion, d'avoir des papiers, d'être blanc, d'éviter les contrôles, et de s'asseoir sur un siège pour partir en vacances, comparé effectivement à l'ampleur et au désastre politique qui se passe en fait au cours d'une expulsion. C'est vrai que c'est pas grand chose, et surtout, il y a. Dans plein de cas, ça a fonctionné et il n'y a pas forcément eu de retombées par la suite. Après, il y a des fois où ça ne marche pas aussi. Enfin, ça, c'est, on ne sait jamais le prédire à l'avance.
Non, c'est sûr. On en a beaucoup parlé. Du coup, cet été, il y avait quand même à l'église du Béguinage une grève de la faim qui a été assez monumentale. Aujourd'hui, on n'en parle plus, en fait, dans les médias. C'est comme si... rien ne s'était passé. Rabia, comment vous luttez dans le collectif avec Migrants Libres ?
Ouais, en fait, tout ce qui s'est passé à l'église et dans les universités dernièrement, pour moi, ça était déjà enfin, on était visible. Parce que depuis que je milite avec les collectifs, des différents collectifs ici en Belgique, pour demander la régularisation, malheureusement, tout ce qu'on faisait, que ce soit rassemblement, manifestation ou aller rencontrer des assos, quoi qu'on fasse, on était invisible. Ce qu'on faisait pour nous, ça a été beaucoup de travail, beaucoup d'énergie et tout. Mais malheureusement, notre voix, elle n'était pas sortie avec l'ampleur que nous, on attendait. Mais ces derniers mois, c'est vrai qu'avec la grève, on était vraiment visible. Il y avait un certain mouvement. Il y avait des gens qui parlaient de nous. On a cru qu'il y aura une solution enfin. Mais malheureusement, selon moi, ce qui s'est passé à la fin avec la proposition du secrétaire d'État, Monsieur Sami Mehdi, d'une zone neutre pour juste traitement de dossiers des grévistes. C'est juste une accélération de traitement de dossiers, mais ce n'est pas une promesse de régulariser les gens.
Est-ce que tu peux expliquer un peu aux auditrices et auditeurs ce qu'est cette zone neutre ?
Ouais, cette zone neutre, ça était juste à la fin de la grève de soif que les grévistes ils ont menée. Il y avait une proposition qu'ils vont ouvrir des bureaux, ramener des gens, des assistants et tout, pour traiter les dossiers des grévistes pour avoir une régularisation. Régularisation entre guillemets, parce que c'est juste une accélération de procédure, de voir est-ce qu'ils sont recevables, genre est-ce qu'ils vont rester sur le territoire ou est-ce qu'ils sont expulsables. Et du coup, pour moi, ça a été vraiment c'était un piège, ça a été un détournement de choses pour calmer, comme on a parlé au début, ça a été très médiatisé, et là, ça a chuté. Et ça a été le coup de grâce pour les collectifs qui ont mené la grève de faim, parce que maintenant on n'en parle plus. Et moi, c'est ma vision personnelle, cette zone neutre, ça ne sera pas la solution. Il y aura beaucoup de grévistes parmi eux, il y aura peut-être des régularisations, mais parmi eux il y aura aussi des expulsions. Et ce n'est pas moi qui dis ça. C'est le secrétaire d'État de l'asile et migration, M. Sami Mehdi, lui-même qui a dit « Moi, je ne vais pas plier devant ces grévistes, je ne vais pas donner les papiers à tout le monde. Ici, on est dans un pays de droit et il faut respecter les lois. Et s'il y a quelqu'un qui va être expulsable, on va l'expulser. » Et pour moi, ça, c'est la défaite qu'on a. J'étais vraiment très déçu et je suis surpris parce que je n'organise pas, malheureusement, avec les grévistes tout ce qui se passe. Il y a un silence horrible, même parmi les soutiens qui sont en train de soutenir les grévistes, parce qu'il faut réagir sur ces propos-là et dire non. Alors, nous, on a mené une lutte qui qu'on a failli mourir. Il y avait des gens qui ont perdu de leur santé, de leur, et peut-être ça va les impacter toute leur vie. Et vous nous dites aujourd'hui que non, il n'y aura pas de régularisation parce que il faut respecter les lois et tout ça. Mais pour moi, la défaite, elle vient de là parce que un groupe qui milite, on va dire pour tous les sans-papiers qui sont ici sur le territoire, mais au moins régulariser ces gens-là. Parce que même moi, je ne suis pas là-dedans, parce que j'étais absent, mais je dis au moins ces gens qui ont mené une grève et qui ont failli mourir, il faut les régulariser sans exception. Plus, l'an dernier, quand on a mené une action, on est sorti, on a risqué, moi, ce que j'ai vu après, que... il y a les circonstances exceptionnelles sur cette loi qui dit s'il y a un cas exceptionnel, on doit le régulariser. C'est dans la loi belge. Et moi, je tiens quelque chose aujourd'hui. Là, il y a le Covid, on ne peut pas revenir chez nous, on ne peut pas travailler, on ne peut pas sortir de chez nous. Ça, c'est une circonstance très, très exceptionnelle qu'on vit tous ensemble dans ce territoire. Il faut régulariser tout le monde comme le Portugal, il l'a fait depuis le début du Covid. Et j'ai dit ça pendant une... Ça a été un rassemblement à Arlois. Mais malheureusement, les autres collectifs, ils n'ont pas cru que la Belgique va régulariser les gens parce qu'il y a le Covid. Ils ont dit non, on va militer parce que peut-être avec le travail, on va les convaincre. Ils ont choisi leur chemin. Moi, je choisis aussi mon chemin. Et je dis, mais tant qu'il y a cette loi, il faut combattre et dire, voilà, il y a quelque chose qu'on tient maintenant. Régulariser tout le monde, sans exception. Voilà.
Et pour pouvoir faire ça et utiliser en fait cette exceptionnalité, on dit comme ça, je ne sais pas, c'est lundi matin. Ouais, c'est ça. Ça veut dire qu'il faut une batterie de juristes en fait derrière.
Je pense.
Qui aide ouais. aussi.
Ouais, parce que nous, moi je dis, je milite, d'accord. Et J'ai pas toute cette force de connaître toutes les lois et dire voilà, je vous tiens, voilà, il faut faire ça et ça. Non, je dis juste que je suis un militant sans papier, je suis juste un être humain et je veux juste vivre tout simplement normal comme tous les autres. Et du coup, quand je vois des choses que c'est possible, comme cette loi de circonstances exceptionnelles sur lesquelles on peut régulariser un sans papier qui est sur le territoire de X temps. Le minimum des gens qui sont là, je dis, les gens que je connais dans les collectifs, ça fait 5 ans, 6 ans qu'ils sont là. Moi, ça fait 11 ans. Alors, il y a des gens qui ont 20 ans. Bah, du coup, ça, pour moi, déjà, c'est une condition de régulariser les gens parce que ça fait longtemps qu'ils sont sur le territoire et on peut le prouver. Et plus on travaille, plus on loue, plus il y a des enfants. Alors, il y a beaucoup d'arguments.
Oui, il y a une vraie vie, en fait,
une vraie
qui
vie.
Se passe ici.
Ouais, merci beaucoup. Une vraie vie qu'on tient beaucoup. Et moi, je dis, maintenant, on a nos pays d'origine, d'accord. Et je suis fier que je viens du Maroc, par exemple, et tout ça. Mais j'ai plus envie de revenir chez moi parce que ça fait 11 ans que j'ai quitté mon pays. Et ici, j'ai construit quelque chose et j'ai envie de vivre là. Ça y est, c'est bon, j'ai trouvé mon élément et je me débrouille, je veux rester là. Et c'est mon droit, parce que dans les lois des droits humains, ils disent ça, ils disent si tu as envie de s'installer quelque part, tu as le droit de le faire. Ah bah du coup, moi je tiens à cette loi et je tiens à ce droit et je veux l'exécuter, même s'il m'expulse, je reviendrai. Et c'est une chose qui est arrivée et c'est pour ça, moi je le dis aujourd'hui, parce que j'ai vu pas mal de camarades sans papier qui luttaient avec nous. Et ils étaient expulsés. Après 3 ans ou 2 ans, ils sont revenus. Mmh. Et voilà, bah... La loi de expulser les gens, ça sert à rien pour moi. Il faut juste vous trouver des solutions concrètes. Pas expulser les gens.
Oui, il y a une logique à revenir reprendre sa vie, en fait.
À fond. Mmh. Parce qu'il y a un ami à moi qui m'a dit, je suis revenu à Casablanca, c'est plus Casablanca que j'ai connu quand j'étais petit. Moi, je connais Bruxelles plus que Casa, alors du coup, ça sert à rien.
Ouais. Oui, ce droit de pouvoir vivre, en fait, où on veut, c'est aussi... politiquement, philosophiquement, ce que défend Migrants Libres, mais aussi Getting the Voice Out et d'autres collectifs encore. Mm-hmm. Et c'est vrai qu'on voit que, bah voilà, il y a certaines personnes, de par leur origine, passeport, peuvent en fait venir à Bruxelles et s'installer absolument comme elles le souhaitent, et d'autres qui sont expulsables.
Mm-hmm. C'est un peu cette logique. Cette logique hyper raciste aussi de faire enfin, on parle de migrants et puis versus les expats.
Oui.
ça pose déjà un peu une vision du monde. Enfin voilà, la question des frontières, voilà, ça trie, ça tue, ça détruit des vies et en fait ça crée aussi des trucs hyper inégaux et hyper hyper racistes aussi dans le système dans lequel on est.
Je propose de faire une petite pause musicale. On écoute Los Bichos avec The Link Is About to Die. Il est 8h27, on est toujours sur Radio Panique dans les promesses
Discover
de l'aube.
Discover new music at listener powered KEXP. Ah. Ouais,
voilà, super.
Donc on est toujours en studio avec Rabia de Migrants Libres et Flo pour Getting the Voice Out. On parle donc souvent de cette régularisation qu'il y a eu en 2009. Donc c'était une grosse régularisation qui n'est plus arrivée en fait depuis. Si j'entends bien, c'est quelque chose comme ça en fait qui est réclamé par Migrants Libres. Et en fait là aujourd'hui et par rapport aux 450 personnes qui ont fait une grève de la faim cet été, très peu en fait ont été régularisés.
Ouais, en fait ce que nous dans les collectifs de sans-papiers on revendique en premier plan, c'était une régularisation massive pour tout le monde. Mais après, il y a toujours des négociations, ce qui était fait dans le passé. En 2009, ça a été une régularisation aussi massive, mais après, il y avait beaucoup de problèmes dans cette régularisation. Il y a beaucoup de gens qui ont eu leurs papiers à l'époque, mais après, ils les ont perdus, parce qu'il y avait beaucoup de conditions à travers le patron, travail, tout ça. Tous ces trucs de loi que nous, on ne comprend pas, en fait, mais du coup, tu es juste heureux quand ils te disent « ouais, on te régularise », tu es content, mais après, tu ne vois pas le piège derrière.
Mais c'est un parcours du combattant aussi,
ouais.
Après.
Et voilà, ce que je dis, malheureusement, parmi les gens qui ont fait la grève, il y avait des gens qui étaient dans cette régularisation de 2009. Ils savaient qu'il y avait des pièges et tout. Mais malgré ça, ils tombent encore dans le même trou que voilà, il n'y a pas une régularisation claire et nette avec des critères clairs et permanentes. Mais il y a juste ce truc de zone neutre qui va aussi créer encore des sans-papiers qui seront là encore bloqués en quelques années. Moi, je trouve le jeu politique qu'ils sont en train de mener avec les sans-papiers, c'est horrible parce qu'ils mettent la vie des gens en danger en permanence et ils mettent les gens, les gens, ils commencent à être malades même mentalement. Et moi, j'avoue que je suis maintenant fatigué parce que ça fait presque 11 ans que je suis là et je milite depuis 6 ans ici à Bruxelles et je commence vraiment à être faible mentalement, physiquement et tout ça. D'accord, tout le monde il dit ouais mais il faut continuer, d'accord, mais après quand tu vois pas qu'il y a même pas une volonté de régulariser des gens qui étaient en train de crever, tu dis mais qu'est-ce qu'on doit faire, parce qu'on a fait tout, on a manifesté, rassemblé, faire des réunions, voir les politiciens, aller voir des partis politiques, négocier avec eux, même les alliés, par exemple moi-même, les alliés politiques qui sont à côté des sans-papiers, malheureusement ils ont aucun pouvoir dans le gouvernement et ils ont déjà signé un accord qu'il y aura pas de régularisation massive pour les sans-papiers. Selon moi, qu'est-ce qu'ils attendent ? Ils attendent que quelqu'un crève pour qu'ils bougent et disent « Ah ouais, malheureusement, il y a quelqu'un qui est crevé, on va changer la loi. » Pourquoi ils attendent un drame pour changer leur position ? Pourquoi il faut que quelqu'un meure pour, comme Flo il a dit tout à l'heure, Samira Adamou, il fallait que Samira meure pour que la Belgique, à cette époque-là, dise « Ouais, voilà, on va régulariser les gens. » Mais ça, c'est pour moi, c'est horrible. Il faut toujours que... Nous, déjà, pour passer un message, sachez que les sans-papiers, ils meurent. Même si on est invisible, mais ils meurent dans les centres fermés. Il y a des gens qui se suicident, ils meurent dans leur chambre des fois parce qu'il y a manque d'argent, manque de médicaments, même des fois quand ils sont expulsés, ils meurent là-bas et voilà, on continue à mourir, mais c'est juste que ça se sache pas, on n'est pas au courant de comment la vie de sans-papiers, comment elle est menée.
Et moi j'avais envie de réagir vis-à-vis de ça. Il y a 23 ans, quand Samira est morte, il y a eu une réaction de l'opinion publique, une réaction du politique. Maouda, il y a 3 ans, en fait, c'est un drame. Il y a une petite fille qui est morte et qui a été tuée, oui, par la police, mais en fait par le système migratoire aussi, qui a permis à ce flic de tirer sur une camionnette qui transportait des personnes migrantes. Et en fait, on a vu que ça n'avait rien changé. Quand on voit les résultats, d'ailleurs il y a le procès en appel, je pense le 30, quand on voit ce que ça a donné, un an de sursis et 400 euros d'amende, enfin c'est quand même hyper interpellant de voir à quel point en fait la vie d'une personne migrante compte pas. Et tu le disais, en centre fermé, il y a effectivement des cas qui sont plus médiatisés et dont on parle. Il y a aussi tous ceux dont on ne parle pas parce qu'en fait on ne sait pas et que que ce soit à propos de la régularisation ou sur la question des centres fermés, il y a toute une logique de contrôle de mouvement, de contrôle de la circulation, de contrôle des corps, de contrôle des comportements. Dans un centre fermé, enfin là j'avais envie justement de rebondir là-dessus tout à l'heure, j'ai oublié de le dire, mais Getting the Voice Out, on lutte contre la question des centres fermés, mais de manière générale, on est aussi contre toutes les formes d'enfermement et d'encampement, du coup dans des logiques anticarcérales aussi, parce qu'en fait ça participe justement au même, à nourrir un même système, un système raciste, un système classiste, et donc du coup ça fait partie aussi d'un pack d'oppression. Et du coup, je voulais. Ouais, c'est ça. Désolée, c'est lundi matin. Du coup, je perds le fil rouge. N'hésitez pas à m'arrêter. Et du coup, le parallèle aussi avec la question des prisons. Ben, les centres fermés, en fait, ce sont des prisons qui ne portent pas leur nom et qu'à l'intérieur des centres, le contrôle des corps, il s'opère de différentes manières. Non seulement par la question administrative, où en fait, on les enferme, mais aussi, en fait, concrètement, c'est ne pas décider de quand tu peux ouvrir ou pas la lampe, ne pas décider de l'heure à laquelle tu manges, ne pas décider de l'heure à laquelle tu dors, ou à quel endroit tu peux être, à quel moment dans le centre fermé. Et du coup, il y a vraiment toute une logique, non seulement de fichage, mais aussi de contrôle, qui s'opère, en fait, à plein de niveaux, au niveau institutionnel.
Et en cette période, en plus de Covid, comment ça se passe en fait pour les personnes à l'intérieur ?
Alors ça a évolué depuis. Donc alors au début du Covid, et je crois que ça c'était un des points positifs, c'est que les centres se sont vidés en partie. C'est-à-dire que les personnes qui étaient essentiellement enfermées tout au début étaient des personnes à qui on a dit. Nous, on parle de la question de la double peine, des personnes qui étaient passées par la case prison avant et qui, du coup, après la prison, étaient enfermées en centre fermé. Et du coup, il restait essentiellement ces personnes-là, pas que, mais en tout cas, dans les personnes avec qui on était en contact, c'était essentiellement ce profil de personnes qui restaient enfermées. Au début, en fait, il y avait pas de masque, il y avait pas de gel, les gardiens faisaient pas gaffe. Du coup, on avait beaucoup de détenus qui étaient hyper angoissés, qui nous appelaient en disant en fait on va être malade et ici en fait si on est malade on crève, on n'a pas accès aux soins. Et du coup, il y avait vraiment un climat hyper anxiogène parce qu'en fait bah oui, enfin ils sont enfermés, ils savent que s'ils tombent malades, tout le monde s'en fout. Et du coup, ils étaient vraiment très très stressés et effectivement, les gardiens faisaient pas gaffe du tout. Ouais, les masques, le gel, il y avait plein de choses qui étaient pas mises en place. La question des visites, on pouvait plus aller visiter à un moment donné. Et puis quand ils ont réinstauré les visites, c'était moi, je suis allée faire une visite pendant le Covid, voir une personne avec qui j'étais en contact. Et du coup, c'était... on rentre dans la salle des visites. Donc, quand on fait des visites, on est dans une salle où il y a plusieurs tables qui permettent différentes visites. Donc, vous êtes avec tout le monde dans la même pièce. Et il y a un gardien qui surveille. Là, c'était extrêmement malaisant parce que du coup, la visite se faisait avec... moi, j'allais voir la personne. Donc, on était deux dans la pièce avec le gardien qui nous surveillait et qui avait accès à toute notre conversation. Donc, intimité zéro. Avec des plexis, mais c'était vraiment... Enfin, c'était le plexi pour maintenir un peu l'image de... Non, mais voyez, on fait gaffe, alors qu'en fait, on savait très bien qu'en dehors des visites, en fait, il n'y avait pas du tout de vigilance vis-à-vis du Covid et des personnes qui étaient détenues. Et maintenant, ce qu'on constate, c'est que les centres se remplissent à nouveau. C'est que les expulsions ont repris. Donc il y a eu ça aussi, il y a la question des expulsions, ça a été arrêté pendant un certain temps, ce qui n'est plus le cas maintenant. Et alors, il y a vraiment une pression aussi sur faire des tests Covid, les vaccins, et du coup, ça fait partie aussi des moyens de résistance de refuser en fait de faire le test par exemple. Mais ça reste très compliqué, il y a beaucoup de pressions qui sont opérées pour continuer en fait à faire en sorte que les personnes soient expulsées, et sachant qu'en temps normal, hors Covid, les pressions, elles s'exercent de différentes manières. Et par exemple, ça passe par des assistantes sociales qui arrivent avec des vidéos d'expulsion violente en disant aux personnes qu'elles suivent, ben voilà ce qui t'attend si jamais tu refuses. Donc si j'étais toi, en fait, j'accepterais maintenant. Et comme ça, en fait, tu évites l'escorte et tu évites les violences. Et c'est très, très, très violent. Et il y a vraiment un stress constant qui est là à l'intérieur.
C'est plus qu'une incitation, un retour, comme on dit. C'est vraiment, en fait, de la pression psychologique. C'est une forme de torture psychologique, en fait.
Ah, mais c'est complètement ça. Et donc, ça va de l'assistante sociale aux escortes, où je me souviens d'une personne avec qui j'étais en contact qui voulait résister. Et du coup, avant de monter dans l'avion, un des seuls moyens de résistance qu'il avait, parce qu'en fait, les personnes, elles résistent avec ce qu'elles peuvent, c'est-à-dire des grèves. Ça passe par des grèves de la faim, ça passe par ouais, essentiellement des grèves de la faim. C'est vrai que ça, on en a beaucoup, mais ça peut passer, par exemple, la personne avec qui j'étais en contact avait avalé des lames de rasoir avant de monter dans l'avion, en se disant qu'en fait, si elle allait mal, elle allait ne pas pouvoir monter et que du coup, d'office, l'expulsion était annulée. Les flics lui ont dit avant de monter, on s'en fout, t'auras qu'à crever au Togo. Et du coup, arrivé dans l'avion, il a commencé à cracher du sang et en fait, il y a des personnes, et ça fait partie des exemples qui ont fonctionné, il y a des personnes qui se sont levées dans l'avion et qui ont permis à la personne qui allait être expulsée de descendre. Et s'en est suivi aussi des coups et des insultes dans la voiture qui l'a ramené au centre.
Et au niveau, du coup, je sais plus où je voulais partir. Et oui, avec Getting the Voice Out, donc t'as expliqué quand même pas mal de choses là qui se font. Comment on peut vous rejoindre?
Alors il y a une adresse email, donc c'est gettingthevoiceout@riseup.net. Ou alors simplement aussi en nous envoyant, on a une page Facebook, donc il ne faut pas hésiter à nous contacter par là aussi. Et dans les moyens de soutien, il y a à la fois le fait effectivement de nous rejoindre et de prendre un appel ponctuel. Il faut savoir qu'on lâche pas les gens en disant tiens, prends l'appel, débrouille-toi. On fonctionne aussi par binôme. Ça permet d'éviter en fait de sentir très seul par rapport à un appel, ce qui peut être hyper stressant quand on est soutien parce qu'on sait pas quoi dire, on sait pas comment réagir. Il y a des personnes avec qui c'est très fluide et on discute et c'est ok, mais il y a des personnes qui vont très mal. Et du coup, c'est pas toujours évident. On n'est pas non plus, on n'est pas psy, on n'est pas AS. Et du coup, il y a des informations auxquelles on n'a pas accès, des attitudes aussi auxquelles on ne sait pas comment se confronter à certaines choses. Et du coup, on fonctionne aussi sur des logiques de binôme pour éviter en fait que ce soit trop difficile à faire. Et sinon, en fait, si vous manquez de temps, on a besoin de thunes. faut savoir qu'une des manières de soutenir aussi, c'est on recharge les cartes de téléphone des personnes à l'intérieur, ce qui leur permet non seulement d'être en contact avec leur famille, mais aussi avec les avocats et de pouvoir prendre en charge leur dossier. Parce qu'il faut savoir qu'une fois à l'intérieur d'un centre, vous n'avez pas beaucoup de possibilités de travailler sur votre dossier en vue d'être libéré ou. Et du coup c'est hyper compliqué, donc ça c'est une des manières aussi très concrètes si vous n'avez pas le temps de soutenir, c'est verser des sous et en fait ils sont directement aussi renvoyés à l'intérieur des centres pour soutenir la résistance des personnes à l'intérieur.
Et Rabia, comment on peut rejoindre Migrants Libres?
Pareil, il y a un groupe sur Facebook qui s'appelle Migrants Libres. Il y a aussi mon blog qui s'appelle Migrants Libres WordPress. C'est un truc libre comme ça où on fait des articles et des vidéos. Mais c'est facile sur Facebook, en fait. Ça passe sur ça. C'est dernièrement, quand il y avait le Covid, j'ai eu beaucoup de messages sur le groupe. Et c'est pour ça qu'on a fait la sortie. Et voilà.
Et si vous avez envie d'en savoir plus sur les centres fermés, on vient de lancer aussi un podcast qui s'appelle Lance-Pierre. Il y a un premier épisode qui est sorti qui explique en fait c'est quoi un centre fermé. Et l'idée, c'est vraiment de mettre en avant la parole des personnes concernées. Donc n'hésitez pas. C'est dispo sur Spotify.
Ben merci Rabia et merci Flo. C'est vrai.